un petit rappel, si vous voulez bien, de quoi s'agit-il de notre société. La société a été fondée par le père Emmanuel, c'est pas le père Emmanuel Marie, Emmanuel de Manu Saint-Loup, fin 19e siècle. Son but est simple, c'est de promouvoir la parfaite modestie chrétienne parmi les dames et jeunes filles. En fait, c'est tout simple. C'est la fidélité aux grâces du baptême, de la confirmation et de la première communion. Deux moyens très simples. Union des âmes dans la charité et la pratique de la modestie dans les habits. Engagement très facile, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure, la prière quotidienne Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous, Ave Maria et Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous. Est-ce que vous le dites, Pierre?
Non. J'ai l'apprendre.
D'accord. Très bien. Tout simple.
Avoir l'horizon.
Comment?
Juste avoir l'horizon.
Voilà. Il faut trouver le bon sens.
Oui, trouver
un moment. Suivez bien, je voudrais vous parler aujourd'hui, vous présenter le livre, un petit livre. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez?
Juste au bout du parc.
Alors, livre d'Anne Brassier et Stéphanie Bignon, intitulé « Cessez de nous libérer » ou bien « Le petit traité pour les femmes chrétiennes ». Les auteurs qui sont-elles? Anne Brassier, ancien professeur, journaliste littéraire, puis biographe, productrice sur la radio Courtoisie. Et Stéphanie Bignon, ingénieur, c'est notre affaire, ingénieur spécialisé en intervention sous-marine et agriculture.
Sous-marine.
On a trouvé la marque. Alors, d'abord, ça va vous étonner un petit peu, mais je voudrais parler des points faibles de ce petit livre. Alors, ces deux personnages représentent plutôt le milieu rallié. Alors, dans ce livre, il faut être tout petit peu critique. Vous trouverez des citations de Jean-Paul II, Benoît XVI, etc. Bon. Et aussi, parfois, bon, ça m'a tout petit peu gêné, mais peut-être c'est parce que je suis étranger, j'ai dû chercher souvent dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de langage, parfois le langage peu soigné, ou même un peu trop cru. Bon. Souvent, je trouvais que c'est populaire. Je ne sais pas à quel niveau c'est populaire, ou un peu vulgaire, je ne sais pas. Mais bon, vous voyez, parfois, vous serez bien. Je vous trouve tout simplement très bien. Il faut être tout petit peu critique. Mais c'est mon deux points. Alors, le point fort, ce qui est intéressant, sont de nombreuses citations des ennemis de l'Église et aussi des ennemis de la nature féminine. Ils sont dans ce petit livret qui dévoile leur néfaste dessin de ces ennemis. C'est intéressant. Vous connaissez? Alors, d'où vient l'idée d'écrire ce livre? Voilà, pour l'ancien professeur, journaliste littéraire, ça va, mais pour la deuxième femme, la spécialisée en intervention sous-marine, d'où vient cette idée? Mais bon. Il est né d'abord d'un constat, expliquent les auteurs. Important. Depuis le siècle dernier, c'est-à-dire le 20e siècle, on a laissé sortir Dieu de la sphère publique pour l'enfermer au foyer. D'accord? Donc Dieu est à l'extérieur, il va à l'intérieur. Bon, il n'est plus à l'extérieur, tout simplement. Comment ça s'est passé? Par l'élimination des congrégations enseignantes et hospitalières, la chasse aux crucifix, aux tribunaux, hôpitaux, écoles, et la suppression des noms et des fêtes religieux. Mais c'est pas tout. Dans le même temps, on a laissé sortir la femme du même foyer pour la jeter dans la sphère publique. Il y a un échange. Dieu dedans, du foyer, et la femme dehors. Ce livre est aussi une réaction de ces deux femmes en mensonge, au pluriel, sur la condition féminine et la laïcité. Mensonge dont les femmes sont victimes. Victimes, elles ne sont pas gagnantes. C'est ça. Les laïcistes, je cite, « Les laïcistes sont les mêmes que les féministes. Ils prétendent défendre la femme en la persuadant d'abandonner sa vocation de mère et d'épouse, en la réduisant à un rôle d'agent de production et en l'isolant. Or, la vocation de la femme est d'aimer et de s'occuper de son foyer. Travail qui ne souffre aucune négligence. » Il y a un nom que je ne connais pas. Marie-Noël, ça veut dire quelque chose? Marie-Noël.
Marie-Noël, oui.
Marie-Noël, pour Noël, bientôt. Marie pour Noël.
Avec les poésies. Les lutins, la petite ville lutin.
D'accord, alors...
C'est les
30,
c'est
ça. C'est ça,
c'est
entre
deux guerres,
Marie-Noël?
Oui, c'est ça, c'est du... Première moitié du XXe siècle. Elle a dû mourir vers 1950-52.
Que le livre d'auteur chrétien.
Alors qu'elle a dit tout simplement... Ce n'est pas un travail vite fait que d'aimer. Et voici le résumé de l'ouvrage. Alors, il contient juste 3 chapitres. Premier, historique, qui s'appelle « Remontant le temps », avec la question « Est-ce que les femmes, jadis, étaient esclaves ?» Sous-entendu, tout le monde sait que le christianisme a oppressé les femmes tout au long de son histoire. Voilà. C'est ça. C'est l'objection. Deuxième chapitre, le diable, excusez-moi, mais je cite, le diable passe toujours par Ève. Ça présente des cibles, des attaques, des ennemis de la femme. Parce que c'est pas seulement la femme qui sera visée. La femme directement, mais d'autres cibles indirectement, pas de la femme. Et troisième chapitre, pour une restauration, elle dit restauration rapide, à mon avis, il n'est pas possible que ce soit si rapide, disons pour une restauration, cela veut dire que faire, comment s'y défendre contre ces attaques. Chapitre premier, on nous invite à remonter le temps. Alors, on y va. Tout commence au paradis terrestre. Satan a voulu détruire l'œuvre de Dieu en s'attaquant à une femme. Nous l'avons déjà bien vu, si vous vous souvenez, avec ton maréchal. Bon, ce n'est pas la peine de beaucoup insister, tout petit peu seulement. Séduite, elle devient à son tour séductrice. Et aujourd'hui, le scénario est le même. Heureusement, la désobéissance d'Ève est neutralisée par le fiat de Marie, son obéissance absolue. Et après, la fin au Moyen-Âge. Le monde nous présente cette période comme un long esclavage. C'est masculin ou féminin?
Masculin.
Un long esclavage dont le nom est DONT, les temps modernes l'auraient libéré. Voyons tout un peu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il faut répondre. Quand on se penche sur le passé de l'homme et de la femme, quand on étudie les civilisations antiques et le rôle joué par les femmes, quand on met en lumière l'apport des législations qui remontent au XIXe siècle, on s'aperçoit d'une chose tout à fait contraire. Que non seulement la femme a joué un rôle éminent dans le développement des sociétés, mais aussi que l'Église était le facteur déterminant de son, comprenez bien ce mot, émancipation, voilà, en bon sens, au cours des siècles. Le petit Larousse cite pour le deuxième et troisième siècle, en dehors de Zénobie, un certain Zénobie, reine de Palmyre, et il n'appose d'empereur 19 femmes, 19 saintes, toutes mortes martyres parce qu'elles refusèrent le mariage et furent donc accusées d'être perverses et antisociales. Puis viennent des impératrices chrétiennes et des saintes protectrices des cités et des peuples, comme sainte
Geneviève.
Merci. Sainte Brigitte de Kildare en Irlande, je ne connais pas. Sainte Catherine de Sienne, sainte Clotilde, qui convertit.
Oui.
Merci. Je ne demande pas quelle année, parce que je ne sais pas. D'accord. Alors, en schématisant, c'est important. On constate la présence féminine dans l'histoire, non pas disséminée au hasard, disséminée ici par là, mais suivant une courbe continue avec des hauts et des bas. Elle atteint un sommet aux alentours de 600. Qu'est-ce qui s'est passé à 600? Quand les femmes acclimatent les barbares. Puis un autre sommet vers 1200. Lorsque les femmes façonnent le prud'homme de Saint-Louis. Puis, un moindre sommet vers 1400. Alors, deux personnages de sainte.
Jeanne d'Arc.
Attendez, c'est peut-être pas sympa. D'abord, une dominicaine, s'il vous plaît.
Sainte-Catherine de
Sienne. Oui, et... Oui, Sainte-Brigitte.
Sainte-Brigitte.
C'est ça. Lorsqu'elle sauve l'Europe du désespoir et de l'anarchie. Encore un sommet vers 1600, d'où est issu l'honnête homme de Louis XIV. Et votre Sainte Jeanne d'Arc, voilà, vous avez votre Sainte Jeanne d'Arc, mais c'est elle en fait qui clôt le Moyen-Âge. Étrangement, la femme et le chevalier disparaissent en même temps, comme si l'un dépendait de l'autre. L'amour courtois a sublimé la femme dans la sphère publique et sa féminité, visible et revendiquée, a permis à la virilité de l'homme de s'affirmer. Vient ensuite les Lumières. Beaucoup de Lumières. Intéressant, mais les Lumières. Et la Révolution. Certaines femmes ont cru bon de servir la Révolution, mais elles se sont fait éliminer. Comme Olympe de Gouges, ça dit quelque chose, Olympe de Gouges, je ne connais pas, qui était
une amie des philosophes, déjà féministe, et qui effectivement est amenée sur l'échafaud.
Madame Roland.
Oups.
Même chose.
Même chose, elle accueillait les philosophes dans son salon.
Et les autres. Si l'on analyse les écrits révolutionnaires, on s'aperçoit que les auteurs ont une piètre idée de la femme, comme du paysan d'ailleurs. Et enfin, notre époque contemporaine. Qu'en est-il de notre... Qu'est-ce qui s'est passé? Voici la liste de tous les progrès, soi-disant progrès, de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. D'abord, vous souvenez, il y avait deux pas. Deux pas, le bon Dieu, pour ainsi dire, dehors. Dehors, ça veut dire dehors la sphère publique. C'est ça ce qui signifie en fait. C'est pas autre chose. Alors, on a plusieurs lois antireligieuses. 1879, interdit l'enseignement aux congrégations non autorisées. 82, expulsant la loi expulsant la religion des programmes officiels. 86. Loi laïcisant le personnel enseignant des écoles publiques. 88. L'autorisation du divorce. Alors, ça concerne surtout la femme, c'est pas seulement l'église. 1904, 20e siècle, déclare tout membre d'une congrégation religieuse inapte à l'enseignement. Inapte. Voilà, je pensais parce qu'elle est inapte. Elle est inapte, il faut passer par ça. Vous ne savez pas faire.
C'était sous quel gouvernement la Troisième République. Tout ça, c'est la Troisième République. Pas la peine de chercher les gouvernements, c'est tout.
1904, ça c'est 1904.
Oui, mais avant. C'est toute la Troisième République, quels que soient les gouvernements, ont mené une politique anti-religieuse. Tout à fait.
Oui, la quête de la formation. Qui est le café divorce.
C'est plus dur aussi pendant le même temps que notre génération.
Oui, c'est vrai. Enfin, 1905, expulsion des congrégations. Voilà. Alors, c'est premier pas, faire sortir le bon Dieu de la sphère publique. Deuxième pas, la femme prend la place du bon Dieu dans la sphère publique. Comment s'est passé? D'abord, pendant la guerre de 14-18, alors, la femme sort de la foyer et change progressivement de fonction. Elle devient, comme dit l'auteur, ou les auteurs, les rouages de la grosse machine à produire. Après la Seconde Guerre mondiale, et sous la pression de divers groupes, féministes ou autres, sont proclamées toutes les lois sur les femmes et la féminité. Excusez-moi, ça sera un peu plus bon. La pilule, la libération sexuelle, l'avortement gratuit, la loi sur la... Bon, c'est pas cru ça. Sur la parité, et même pourquoi c'est mauvais, qui achève de sortir impérativement la femme du foyer pour lui imposer un travail à l'extérieur. Ensuite, l'éducation sexuelle à l'école, dès le collège, la pilule gratuite distribuée aux adolescents, l'avortement des mineurs. Ensuite, mai 68, avec le fameux mot d'ordre, il y en avait deux. Jouissance sans entrave. Ensuite, il est interdit d'interdire. Vient ensuite Anne Simone Veil, 1974. C'est l'avortement. L'avortement. De nouvelles lois facilitent le divorce, le rend plus rapide. La famille explose et rend l'âme. On invente la famille monoparentale. Ça va, monoparentale? Ça va pour le moment? Alors, on peut objecter, bon, vous exagérez tout un peu, il y a toujours existé des infanticides, des unions soi-disant libres, etc. Oui, mais ces actes étaient qualifiés infanticides, débauche, ou simplement abandon du domicile conjugal. Il était réprimé plus ou moins fortement, plus ou moins justement. Ce qui a changé, c'est important, c'est le regard de la société. On a légalisé et requalifie. L'avortement devient IVG, cela veut dire
recherche
volontaire
de
grossesse. C'est plus ça. C'est pas trop. Et l'infanticide considéré comme le crime le plus horrible, jusqu'à il y a peu, se normalise. Un exemple 2013. Le monde occidental est en passe de légaliser tous les désordres. Le mariage de personnes de même sexe, déjà imposé aux Espagnols et aux Anglais, l'adoption des enfants par ce couple et la gestation par autrui. Est-ce que vous comprenez la gestation pour autrui?
Oui.
D'accord. C'est pas un esclavage, je comprends pas. Bien. Non, les auteurs du livre, en constatant ce qui précède, se posent alors une question. Pourquoi cette attention particulière au sort des femmes? Ou plutôt, pourquoi cet acharnement contre leur fonction première? Et la réponse va nous dire tout. Parce que nous subissons des attaques idéologiques, terrifiantes depuis un siècle. Des régimes politiques, des systèmes économiques veulent imposer un homme nouveau. Et comment façonner cet homme? En changeant d'abord la femme. Et pourquoi? Car s'il appartient à l'homme de façonner le monde, il appartient à la femme de façonner les hommes. Voilà, la femme, l'homme et le monde. Chacun façonne le suivant. Chapitre 2, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, je pas tout dit. Je pas tout dit. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont... Je choisis seulement les choses qui me semblent les plus importantes.
Je voulais juste vous demander, oui. Quand elle parle du Moyen-Âge, est-ce qu'elle évoque les lois, tout le système légal du Moyen-Âge et l'opposition qui va se former quand les juristes de François Ier vont remettre en place le droit romain?
Non.
Non, elle n'en parle pas. Et pourtant, pour montrer la place de la femme, c'est extrêmement important, tout le système légal... Tout le système de lois qui avait cours au Moyen-Âge.
Oui, dire la législation chrétienne était supérieure à la législation romaine.
Ah ben largement pour le droit des femmes, oui. Une femme avait le droit d'hériter, une femme avait le droit de travailler, elle était majeure, il me semble, à 12 ans. Mm. Et donc indépendante de tout regard paternel ou matrimonial. Ce qui n'est plus le cas avec François Ier et les lois qui reviennent du droit romain. Mm. Je pense que c'est une faiblesse dans leur
vie
de ne pas pouvoir justifier
là-dessus. Les auteurs parlent aussi de qui est-ce qui a fait toutes ces lois qui... entre la femme, l'origine, le sexe,
et l'homme. La réponse vient tout de suite. La réponse, justement, on peut précéder tout de suite. Ça va venir. Alors, chapitre 2, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le diable passe toujours par elle. Alors, ce seront tout simplement les constats de destruction de la société, avec quelques cibles particulières. D'abord, deux citations. Alors, d'abord, Congrès maçonnique corps féministe, 1900 pile. Je cite. Il nous faut la coéducation des sexes. Nous voulons l'union libre dans l'amour jeune et sain. Le mariage pourra être supprimé sans inconvénient. Liberté absolue de l'avortement. 22 ans plus tard, deuxième congrès du Parti communiste français. L'opération prolongage. Il faut détruire la le sentiment égoïste et instinctif de l'amour maternel. Excusez-moi pour la suite. La femme n'est qu'une chienne, une femelle, si elle aime des enfants. Et quant à la maternité, juste quelques exemples des assauts contre la maternité. Il y en a cinq. D'abord, les femmes à l'usine. Voilà, travailler. Parce qu'avant, vous n'avez pas travaillé. Mettre les femmes à l'usine, les sortir de force, par nécessité, de la sphère privée et leur présenter comme secondaires leur rôle de nourrisseur, leur rôle d'éducatrice et de transmission de la foi. Deuxième assaut, l'invention de la pilule, bon, c'est toujours un temps. Son remboursement et sa généralisation, l'emploi de l'ULIS. Troisième assaut, légalisation de l'avortement. Tuer l'enfant dans le sein de sa mère devient illicite dans l'Occident. Personne ne protège plus l'enfant qui est pourtant destiné à changer le monde. Quelques chiffres. $220,000 à $250,000 avortements par an. Je pense que c'est en France quand même.
Oui.
En 2006, 13 230 avortements sur des mineurs entre 15 et 17 ans. Ça va pour le chien, je ne sais pas si je... J'espère que je suis bien vous voyez. Voilà. Mais attention, il y a des conséquences de tout ça. Quelles conséquences? Quelle logique pousse les hommes politiques à favoriser l'avortement qui fait baisser la démographie, puis à se plaindre à cette dénatalité qui menace le renouvellement des générations et donc notre système de retraite, voilà, c'est l'économie, et à nous imposer, alors comment on va débrouiller, on va inviter des barbares, à nous imposer une immigration massive et bientôt peut-être l'euthanasie pour résoudre le problème. Quatrième assaut, mariage pour tous. Mariage pour tous. Cela veut dire des personnes du même sexe. Et la théorie du genre. Un tout petit peu, petit rappel de quoi s'agit-il dans cette théorie du genre. Alors, elle dit, on ne naît pas homme ou femme, mais c'est la société qui nous impose une fonction. Alors ils disent, c'est pas égal, les uns et les autres, hommes et femmes, sont habilités à remplir les mêmes fonctions, ou à changer, à notre guise, de fonction, voire de sexe. Pour l'histoire, ce qui est intéressant, en fait, ça commence dans les années 50, il y avait une étude qui est sortie, sans indication de l'auteur, Alors, une étude américaine d'enfants souffrant d'ambiguïté d'organes génitaux, les enfants intersexués ou pseudo-hermaphrodites. Et voilà, tout ce cas pathologique est repris par des féministes comme une règle générale. Butler. Dans son livre « Troubles dans le genre pour un féminisme de la subversion », elle dit « Il faut révolutionner la société. La féminité et la masculinité ne sont pas fixées par le sexe biologique. Elles le sont seulement par les relations sociales, la perception de soi-même et l'environnement culturel. » Ça peut changer. 2012, j'ai un peu du mal avec son nom, Naja Vallaud
Belkacem, ministre de l'éducation.
Alors, elle prépare un programme d'action contre la discrimination à l'école. Elle interdit de donner des petites voitures aux garçons et des poupées aux filles. C'est pas juste. Hein. Une crèche expérimentale est créée à Saint-Trond. Et en London, des martyrs aux filles et des casseroles aux garçons. Voilà. Mais on oublie que ces expériences ont été déjà menées en Norvège, ont été arrêtées pour cause d'inanité. Alors, la Norvège l'a rejetée, mais la Suède, son voisin, elle délire à fond, qu'on dise des auteurs. En 1998, le ministre de l'Éducation nationale suédoise a officiellement incité les écoles maternelles à contrer les schémas et les rôles sexuels traditionnels. Voilà. Contrer. Autre exemple, Allemagne. En Allemagne, l'université de Leipzig, Leipzig. vient d'adopter le féminin générique pour l'ensemble du corps enseignant. Il convient de dire maintenant « Monsieur la professeure » et « Monsieur l'étudiante ». Et voici le pourquoi, la raison de la théorie du genre. L'homme ne veut avoir de référence qu'à lui-même, à sa volonté et à sa raison. Il devient sa propre mesure et la mesure du monde. Accepter les déterminismes naturels, cela veut dire être homme ou femme, serait contraire à la liberté. Il se dit, c'est mon choix, c'est mon droit, je suis ce que je veux être. Et s'il vous plaît, un contre-exemple. Est-ce que vous connaissez Simone de Beauvoir?
Oui.
Elle nous dit quelque chose. Pour nous dire quelque chose d'elle.
Oui, elle était avec
Alors, Simone de Beauvoir affirmait, on ne naît pas femme, on le devient. Mais quelle ne fut pas notre surprise, disent les auteurs, lorsque dans ses lettres à l'américain Nelson Algren, je ne sais pas comment on dit, bon, à son véritable amour, peut-être c'est pas ça, je ne sais pas, elle lui déclare, écoutez, qu'elle fera tout pour lui, y compris le ménage, le repassage de sa chemise. Voilà. En aimant, elle est devenue pleinement femme. Toutes les femmes, heureuses et amoureuses, soignent leur intérieur et repassent la chemise de leur homme pour qu'il soit beau. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Enfin, cinquième assaut, double. Alors, l'esclavage, s'éveiller au bien-être de l'époux et des enfants, premièrement. Et l'esclavage, c'est, par exemple, l'allaitement. C'est comme un boulet prisonnier. Alors d'abord, veiller au bien-être de l'époux et des enfants, c'est l'esclavage. La maternité devient peu à peu reléguée, les familles nombreuses ridiculisées. Travailler au dehors est l'impératif du temps. Alors, ce flot de générosité, ce besoin de répandre la tendresse, de protéger, de nourrir, à s'écouler dans cette nécessité ontologique, trouvera à s'écouler dans les associations caritatives, dont le nombre ne cesse de croître. Alors c'est un peu bizarre parce que ce qui est magnifique à l'extérieur, dans les associations caritatives de l'État, ça c'est magnifique, mais à l'intérieur, au niveau de famille, ça c'est égoïste. C'est pas bon. Pardon. Deuxième, allaitement, que je voulais faire un rime, mais c'est pas possible. Allaitement, c'est un esclavage aussi. Mais, c'est l'allaitement au sein qui permet de sauver mes enfants et les rend plus résistants aux maladies. Mais il y a une femme, une dame ou une mademoiselle, je ne sais pas, madame, disons, Elisabeth Badinter ou Badinter.
Badinter.
Alors elle a dit que elle s'indigne de ce retour en vogue de l'allaitement, parce que c'est une mauvaise mode, qui allait empêcher la femme de vivre sa vie. Dans son livre intitulé « Le conflit, la femme et la mère », que je ne vous conseille pas de lire, elle dénie l'instinct maternel et considère comme une régression les nouvelles pratiques écologiques. Le retour aux couches lavables, l'allaitement maternel, troisième chose que je ne comprends pas, le refus des petits pots. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas.
Ah, c'est les petits pots, parce qu'on achète plein de petits pots pour nourrir les enfants, les petits pots qui sont faits dans les usines, mais c'est plutôt qu'on cuisine soi-même.
D'accord.
Au lieu d'acheter les petits pots, on le fait soi-même.
D'accord.
On fait cuire ces petites carottes, ces petites ananas, on prépare tout.
D'accord.
ça évite enfin, l'alimentation industrielle, le sucre et le sel en...
c'est très mode, effectivement. C'est très écolo.
Mais c'est-à-dire que c'est meilleur pour la santé aussi. Hein. Parce que les petits pots, ils sont étudiés pour donner des... comment dire, des dépendances.
Et puis, traiter le goût, c'est vrai.
Oui, c'est, ça donne des dépendances au sucre, ouais, particulièrement.
Ça, ça déforme le goût.
Parce que tout est sucré dans les petits pots. Ouais.
Je suis un enfant
et beau petit pot. Alors, madame Elisabeth de Valenter,
mon Dieu, tiens, bien.
Je me suis servie.
Alors, madame Elisabeth de Valenter, notre chère Elisabeth, elle dit que l'instinct maternel, ça n'existe pas. Voilà.
Ah. Mais. Oui, c'est elle a écrit, elle a joué.
Mais une autre femme, Madame Sarah, bon, c'est, peu importe qui est, Madame Sarah Blaffer-Hardy, de l'Académie américaine des sciences, qui dit que l'instinct maternel, cela se prouve scientifiquement. Écoutez. Au cours de la grossesse, se met en place une chaîne de changements physiologiques considérables. Si la mère se trouve dans un contact intime et prolongé avec ce petit étranger sorti d'elle, ses circuits neuronaux se modifient et l'encouragent à répondre aux signaux et aux demandes émises par son enfant. Une fois que la mère commence à allaiter, et que le bébé simule ses tétons, elle devient encore plus nourricière. Voilà. Mais à travers la maternité, d'autres cibles sont visées. Nous en dormons seulement à trois. Paternité. Ensuite, elles disent le nom couple. Je pense qu'il faut utiliser le mot mariage. Le couple, est-ce que ça... On peut dire le couple. C'est pas...
Marie. Marie.
Ça, non. Et troisième, maison. La maison. D'abord, paternité. Le père se tient normalement aux côtés de la mère, sans qui, nul enfant, naturellement, ne naît. Donc, on se force à écarter le père. Est-ce que vous connaissez Madame Claire Chazal? Ce n'est pas maman de la Chazal, j'espère.
C'est journaliste.
Oui. Qui est-ce?
Bon. Présentatrice du JT et directeur de TF1 pendant des années. Elle a été écartée il n'y a pas très longtemps.
D'accord.
Alors, promesse du soir.
Alors qu'elle a dit, excusez-moi pour la citation, j'ai fait un enfant toute seule. Je fais un enfant tout seul. Et voici les conséquences de cet écart du père. Les féministes d'Occident ont voulu la peau du père. D'une certaine manière, elles l'ont tué. Elles récoltent aujourd'hui la misère de leur fils dépressif, paumé, ça veut dire perdu, c'est ça? Paumé. Neurasthénique. Et, entre parenthèses, les statistiques de suicide montrent en France un chiffre 3 fois plus élevé de garçons que de filles. Elles récoltent la violence banalisée, l'incivilité, l'irrespect dans ces lycées et ces écoles où les femmes sont censées exercer leur autorité. Sans autorité masculine, il n'y a plus d'autorité du tout. Enfin, patriarcal est devenu un adjectif péjoratif, tout comme patriote et tous les mots qui contiennent le mot père et ses dérivés, auquel on associe la signification d'arriéré et d'injuste. Ça, c'est pétain.
Si vous permettez, on a enlevé, oui, dans le droit français la notion de bon père de pays.
Mon père, peut-être que c'est davantage.
Oui, disons, mais de fait, ça continue à se faire. Parce que j'ai fait un contrat il y a quelques jours. J'ai celui que le notaire mette en bon père de faire. Oui, il m'a dit qu'en fait, on ne peut pas le faire. C'est, mais effectivement, c'est décourageux quand même. Il y a des textes qui sont sortis.
Deuxième étape, c'est-à-dire on attaque toujours la femme, la bête d'agnité, mais on attaque indirectement notre cible. Première, on a déjà vu, c'est la paternité. Deuxième, le couple ou le mariage. Ce serait à surprendre. Un mariage sur trois se défait. Un mariage sur trois se défait. La libéralisation du divorce aboutit à la famille monoparentale, c'est-à-dire à plus de familles du tout, dont les pères sont exclus. Et partout, les femmes seules avec enfants sont en première ligne. Elles doivent lutter au quotidien. Avoir un travail ne le met pas à l'abri, car le plus souvent, il s'agit de temps partiel non choisi, d'emplois précaires et sous-payés. La vie devient un réel parcours du combattant. Et troisième, que j'aime le plus, la maison. La maison. Cette maison dont on nous dit, ou dont on vous dit, c'est une prison. Maison-prison. Donc il faudrait libérer les femmes. Mais la maison est une petite entreprise dont l'autonomie est assurée par le revenu du père et le travail gratuit de la mère. La maison assure le gîte et le couvert. La mère nourricière n'est pas qu'une expression, c'est une réalité. Elle nourrit sa famille, consolide sa santé. Elle fait ses courses au marché, achète des produits locaux et les cuisine un certain temps. La femme au foyer a la liberté et le temps de remplir sa fonction, son métier. Elle gère avec économie le budget du ménage. Un exemple d'économie. Ça, on ne mange pas parce que quand je pense au courant. Le hachis parmentier français. Les lasagnes et les spaghettis à la bolognaise. La moussaka grecque était faite à la maison avec les restes de viande hachée au hachoir maison. Cela coûtait trois fois moins cher que le produit surgelé. Et la cuisinière savait au moins qu'elle mettait de la viande de bœuf hachée et non du cheval, voire du rat. Qu'est-ce que ça veut dire cancrela? Parce qu'ensuite, elle a dit O du
Quand
C-A-N.
C'est
des cafards.
C'est des cafards.
J'ai eu raison de ne pas le dire, excuse-moi. Voilà. C'est pas tant. Alors. La maison est aussi le lieu. Est-ce que ce que je viens de dire, est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est sûr.
Bien. La maison est aussi le lieu de l'apprentissage de la cuisine, du goût, du couvert, des usages, de la tenue à table. Apprentissage de la conversation, de l'habillement pour venir à table. Apprentissage de l'attente. Attendre que la maîtresse de maison ait commencé. Attendu. Les repas à heure fixée, sont des moments partagés. Le contraire du self-service solitaire dans le réfrigérateur. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de Pierre et Marie aux États-Unis?
Oui. Il y a quelques années, il y a un jeune homme qui a trouvé sa petite fille. Il s'est un petit peu occupé il y a quelques jours. Et là, on était surpris qu'il ne mange pas à l'office. Il a dit au Pierre et Marie, moi, quand j'ai un trou, je bouge. Voilà, il avait choisi de la nourriture et quand il avait envie, il prenait.
Oui, c'est les habitudes.
aux États-Unis, même au Mexique, maintenant il paraît qu'ils ont copié sur les États-Unis.
Oui.
Ils mangent pareil, donc il y a beaucoup d'obésité, de problèmes
d'épilepsie. Il y a des gens qui vendent plein de trucs dans les rues, puis après ils disent, ils portent devant, ils mangent, puis ça va en marchant.
Puis, voilà. Puis dans les maisons américaines, peut-être après la télévision, je ne sais pas, mais le frigidaire est le meuble le plus important. Il est toujours plein et on va servir quand on veut. Chacun va prendre ce qu'il veut.
Ma Marie Yohanna a raconté que sa première difficulté aux États-Unis en fondant l'école, c'est d'apprendre aux filles à attendre les heures de repas et pas laisser aller toute seule dans le réfrigérateur avec
eux. Voilà. Et si vous êtes invité chez quelqu'un, tout de suite, on vous montre le frigidaire, parce que pour vous, vous allez vous chercher. Ça a l'air sans doute.
Il faut
c'est l'hospitalité américaine.
Il faut encore qu'il y ait des choses dedans.
Ah, mais c'est pas.
Tout
c'est
le plein. C'est pas. Alors, c'est des trucs industriels.
Oui, c'est du soda, c'est des trucs.
Non. Bah oui. Du sucre.
C'est à la maison que se joue toute l'éducation des enfants. Comme le père pour remplir sa fonction sort du foyer pour gagner de quoi loger et nourrir sa famille, la mère, elle, reste au foyer pour élever cette famille. Dis bonjour, merci, au revoir, mouche ton nez, coiffe-toi, récite-moi ta leçon, on peut dire récite-moi votre chapelet ou vos prières. Range ta chambre. Combien de fois dans la journée une mère répète-t-elle ses injonctions? A-t-on réalisé que si l'enfant n'est pas ainsi pris en main à chaque minute de ses premières années, des sauvages vont se multiplier dans les villes? La mère a tant de choses à apprendre à son petit. La tendresse d'abord. Fais-moi un baiser, disent toutes les mamans. Je ne sais pas. Peut-être oui. Si, si, c'est vrai. Ensuite, donne un baiser à papa. Oui. À grand-mère, Et grand-père est le premier, c'est là, grand-père. Et tante Elisabeth. Cette école d'amour est la première école. Puis, elle lui apprendra le bien et le mal. C'est bien, mon aimé. Ce n'est pas bien, mon aimé. Puis, elle lui fera découvrir la beauté des choses. Regarde comme cette fleur est belle. Comme ce tableau est beau. Elle lui apprendra aussi à reconnaître la laideur. Et que signifie élever si ce n'est conduire vers le haut? Et on ne peut élever le savoir sans élever l'esprit, sous peine d'arriver aux orgueilleux et ignorants. Ça va? Ça, c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre, si vous bien. Où chercher les remèdes? Des moyens. Quels sont des moyens de la restauration? Alors, j'en ai choisi trois. D'abord, tout simplement, tout restaurer en Dieu. En Dieu. Premier restaurer en Dieu. Confondement. Tout doit être restauré en Dieu parce que l'homme ne peut fixer à lui-même sa propre loi. La loi de l'homme, ça c'est évident. Il y a une loi morale au-dessus de la loi de la cité, sans laquelle la vie dans la cité devient infernale. Deuxième, restaurer l'instruction devenue outil de propagande, cela veut dire l'école libre. Hors contrat. Bon, c'est pas la peine de beaucoup insister, je crois. Mais quand même, juste quelques remarques de son importance. Les remarques, ils viennent de nos ennemis. D'abord, témoignage d'un frère. Un frère spécial. Voilà. Le frère Ducker Grobel. Ça veut dire quelque chose? Ducker Grobel. On peut le connaître pas. Alors. Inspecteur d'académie, disons à un convent du Grand Orient de France, fin 19e siècle. Écoutez, le but de l'école laïque n'est pas d'apprendre à lire, à écrire et à penser, c'est de former des libres penseurs. Lorsqu'à présent, il a quitté les bancs de l'école, L'élève n'a pas profité de l'enseignement s'il reste croyant. Commentaire. Un siècle plus tard, ses vœux sont exaucés, l'illettrisme et l'irreligion ont fait des pas du géant. Un autre témoignage, s'il vous plaît. René Viviani. Non.
Oui.
Qui est-ce?
Un ministre début du XXe siècle, c'est lui qui a dit nous allons éteindre les lumières dans le ciel comme la vague de la ministre de l'Intérieur, ça.
Alors, René Viviani au Parlement, 1890. Voilà. On nous parle de neutralité scolaire. Mais il est temps de dire que la neutralité scolaire n'a jamais été qu'un mensonge diplomatique de circonstances. Et continue. L'école laïque n'aura porté ses fruits que si l'enfant est débarrassé du dogme, s'il a renié la foi de ses pères, s'il a renoncé à la foi catholique. Quelques conséquences. Une conséquence. Est-ce que vous connaissez l'abrogation OMS?
L'Organisation mondiale de la santé.
Comment?
Organisation mondiale de la santé.
C'est ce que je pensais, c'est ce que je pensais. Alors, qu'est-ce que pourrait recommander cette organisation à transmettre aux enfants de la naissance à 16 ans, d'après vous? Qu'est-ce que pourrait recommander?
Éducation sexuelle.
Vous avez malheureusement raison. De 0 à 4 ans, apprentissage de la jouissance et du plaisir. À 4 ans, les enfants sont assez grands pour exprimer besoins, désirs et limites. Entre 4 et 6 ans, les enfants doivent tout connaître de la procréation. Entre 6 et 9 ans, être informés de différentes méthodes de contraception. Entre 9 et 12 ans, ils doivent connaître tous les droits sexuels. À 15 ans, on doit les inciter à adopter, écoutez, un point de vue, parce que c'est magiquement dit, de vue critique face aux normes religieuses en rapport avec la grossesse. Et quant aux pédophiles, excusez-moi, OMS leur facilite l'accès à leurs petites victimes.
Ça c'est quoi? C'est les recommandations de l'OMS à Pétaki.
L'éducation nationale.
Alors, c'est le guide de l'OMS, standard pour l'éducation sexuelle en Europe.
Parce que Peignon, il avait fait des articles.
Enfin, troisième moyen de restauration, restaurer la quête du bien commun. Est-ce que ça va de la quête du bien commun?
Recherche.
Je vous passe bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est de refuser, en fait, des conditionnements. D'abord, le primat de l'économie, la croissance économique à n'importe quel prix. Aussi et surtout au niveau des familles. Refuser l'insatisfaction matérielle. Bon, je ne sais pas si ensuite, est-ce que la suite c'est bien courante, mais bon, je dis. La course à la voiture neuve, au canapé en cuir, à la nouvelle cuisine, au frigo américain, distributeur de glaçons, etc. L'insatisfaction matérielle, entraîne l'insatisfaction psychologique. Être toujours plus belle, plus jeune, et à la fois vain et coûteux. Le mode et l'industrie cosmétique font un argent considérable sur cette insatisfaction. Conclusion. Alors, est-ce que les femmes ont besoin d'être libérées? D'après vous.
Libérées de quoi?
Elles ont été libérées de force du foyer, comme les carmélites ont été libérées en 1789 de leur couvent. sans que jamais ne leur soit demandé leur avis. Alors, et en contraire, ce qui prétend être leur libération, libération des femmes, en fait, c'est leur l'esclavage. On aime beaucoup les sondages. Les sondages, que disent les sondages? Les sondages. Les sondages ont montré que la majorité des mères de famille qui travaillent préféreraient rentrer à la maison pour mettre en monde un deuxième, un troisième, un quatrième enfant et reprendre plus tard une activité. Alors, les féministes disent « Mon corps est à moi ». Alors, on peut lire. Utilisant le même slogan, plus ou moins, « Notre corps est bien à nous ». Et nous entendons « enfanter », utilise le mot « materner », je pense devenir mère, tout simplement, sans limite. Bon, d'accord ?
« Materner », c'est câliner quelqu'un.
Comment ?
C'est le protéger. « Materner », c'est câliner, protéger quelqu'un.
Ah, d'accord.
C'est l'étape d'après.
Ah, d'accord. Et les féministes, ils prétendent être, je dirais, votre faiblesse, faiblesse de la femme, ce qui est votre force. Et la force de la femme est inaliénable. La main qui met en mouvement le berceau met en mouvement le monde. Le monde. Encore deux citations, courage. Si l'on rend sa force à la femme, c'est toute la société qui se redresse. Nous animons ce monde, nous lui donnons son âme et sa raison d'être. Enfin, est-ce que vous connaissez Gertrude von le Cor? Elle a écrit un livre « La femme éternelle ». Et là-bas, l'homme, citation, « L'homme est le rocher sur lequel le temps se repose. La femme est le fleuve qui porte plus loin. » C'est bien poétique et mythique. Très bien, je finis. Je finis, si vous voulez bien. Vous avez des questions?
Ce serait bien quand même de... Mais c'est pas étonnant s'il n'en parlait pas trop, de montrer de l'origine profonde de ces mouvements féministes. C'est lié au combat des deux cités. Et au fond, on retrouve les ennemis de l'Église, les premiers ennemis de l'Église, la synagogue. Ils ont, en particulier, il faudrait étudier l'action de ce qu'on appelait l'école de Francfort. Monsieur Delassus, le seul qui peut voir là-dessus, il a fait une fois ou même peut-être deux fois où j'y vais, des conférences. Montrer comment cette école de Francfort, qui est née début du XXe siècle, qui a été organisée par des juifs, a eu pour mission de pervertir les mœurs en Occident. Et c'est de là qu'est sorti ensuite tout le mouvement en 68 et la contestation américaine des hippies au début des années 60 aux États-Unis, au début des 68.
J'ai remarqué qu'elles font commencer qu'à la guerre de 14, la sortie des femmes dans les usines, malheureusement, c'était bien avant, c'était le 19e siècle. Dès la révolution industrielle, les pauvres gens étaient au travail, les enfants aussi, soit dans les mines, et non pas tout de suite après la révolution, c'est arrivé dans les 30 premières années. Et toujours des pauvres gens qui travaillaient, et l'homme et la femme et les enfants, mais c'est surtout au moins la révolution industrielle qu'on les a vraiment coupés du foyer. Parce que si vous prenez les milieux pêcheurs, l'homme était en mer, les garçons étaient rapidement en mer, les filles étaient souvent à remailler les filets dans les petites industries sur le bord de côte, mais tout le monde rentrait le soir. La mère, elle s'éloignait un petit peu et faisait aller vendre des coquillages, du poisson, enfin voilà, mais elle revenait systématiquement. Il y avait toujours quelqu'un de présent. Mais c'est quand vous commencez à avoir la révolution industrielle et des usines plus importantes, où là on travaille 10 à 12 heures par jour, voire plus,
Et là, vraiment, oui, vous êtes coupé du foyer. Vous prenez, Hector Malot l'a bien raconté dans Mon passe en famille, mais en famille. Quand il montre que dans les grandes entreprises, on finit par avoir l'idée de faire des crèches parce que les enfants étaient confiés à n'importe qui et que souvent ils en mouraient.
C'est vrai que la guerre des États-Unis s'est accélérée par le fait
qu'il fallait un effort de guerre et qu'on n'avait plus d'hommes valides.
Voilà, les hommes étaient à la guerre, donc les femmes ont pris la place des
hommes. Et à la sortie, elles ne voulaient plus leur rendre parce qu'elles avaient une autre vie.
Voilà, et puis, il y a eu 2 millions de morts,
voilà,
plus tous les escroquiers.
Justement, donc finalement, on avait toujours besoin des femmes pour continuer le travail qu'on leur demandait. Maintenant, tout est placé en Chine, donc voilà. Bon, les entreprises en France, on n'a plus.
Je vous recommande, il y a un livre qui est, je sais pas si c'est un livre, qui a été fait par à l'occasion, je pense que c'est de la. C'est l'Université d'Angers. Ça s'appelle Fête et Fronfons à Angers. C'est à l'occasion du 140e anniversaire de l'Université catholique d'Angers. Et ça raconte un peu les fêtes qu'il y avait à Angers du 19e et 20e siècle. Quand on voit les photos avec les tenues des gens, c'est vraiment impressionnant. Quand les gens étaient bien habillés jusqu'à 50 ans, 60 ans. Très beaux habits des fêtes.
Alors, ce qui est bien, on peut lire ça, ce qui est vrai, mais quand je vous ai dit, je ne sais pas si vous êtes déjà là, avec un tout petit peu l'esprit critique, il y avait beaucoup de passages que je n'ai pas cités qui étaient un peu beaucoup plus crus. Bon, je ne vais pas, parce que je ne savais pas si. Et aussi des citations de soi-disant magistère dialogué post-conciliaire. Mais à part ça, c'est intéressant. C'est intéressant.
Oui. Vous avez bien joué d'étudier les livres de La femme éternelle. Vous avez cité tout un
livre. Pendant la bibliothèque, je rentre.
Je ne partage pas toutes les visions de Gertrude Mablefort sur ce qu'elle présente dans la famille éternelle. Mon père, mon frère, si vous souhaitez le faire, on ne va pas s'en sortir avec une seule réunion. Hein.
Mais ça peut être une étude critique. Hein. Oui. Madame Lequin pourrait faire, par exemple. Vous connaissez. Il y a aussi Gustave Corson qui a écrit un livre sur une petite plaquette sur la femme. Ça vient de ne pas avoir que des choses trop laides, mais allez, c'est quelques beaux livres qui vont trouver la moitié d'auteurs.
Mais surtout, c'était une saine réaction. C'est quelque chose peut-être pas suffisamment fouillé ou suffisamment argumenté, mais c'est une saine réaction que c'est puissant, que c'est puisse éditer. Puis c'est sans doute un résumé.
Comment?
C'est sans doute un résumé, le livre-là.
Ah, je sais pas.
Oui, mais enfin, peut-être qu'au départ, il y avait un corpus de pages. Mais
ah, je ne pense pas. Je pense pas.
La révolution tellement contre la nature qu'il y a toujours des réactions. Les gens qui arrivent à réfléchir, puis ils disent, c'est pas possible. Donc, ils essaient de trouver des bons principes. Ouais.
Ça, c'est qu'on est tellement mal formé maintenant qu'il finira plus tard.
On a du mal à retrouver, de remonter la chaîne, retrouver parce que c'est pour l'éducation, c'est pas possible. Hein. Il y a 200 ans pour bien l'évolution, et donc on a quand même beaucoup perdu.
L'alimentation aussi. Qu'est-ce qu'on mange en France au Moyen-Âge?
Non,
dans un
Moyen-Âge,
on
n'est pas vieux.
Hein. Non,
c'est
rien du tout.
C'est juste.
Vous savez, ils ne savaient pas soigner les maladies, donc les gens ne pouvaient pas les aller. Mais ils vivaient plus sainement, ça, je pense. Ils avaient quand même une vie plus saine. Puis ils allaient plus vite au ciel, surtout.
Comment?
Ils allaient plus vite au ciel.
Oui. Après, c'est le but de la vie, hein, normalement. On n'est pas là pour atterrir, mais pour grimper.
Oui. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire pour la prochaine fois? Il nous reste toujours le livre de Romain Rochot. Est-ce que l'une parmi vous voudrait faire le résumé de ce qu'il nous reste? On peut y aller. Vous avez sur la chaire, qui est transformé en un présentoir, plusieurs choses, des livres, la lettre et une présentation de notre société. Et le livre dont je parlais, c'est dans La mort des six chrétiens de Don Maréchal, demain. C'est pas très compliqué, c'est en fait la partie historique